L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Couëm, un samedi matin de printemps à l'aube de son déploiement. Dans la région de Mons, c'est le calme plat aux toutes premières heures du jour. Une de ces torpeurs qui subsistent de la nuit. Le jour se dresse sans conviction. Ce n'est pas le soleil qui va régner aujourd'hui dans le ciel, mais bien le brouillard. Un voile épais, gorgé d'une fumée inquiétante, recouvre le borinage. Olivier Motte semble bien seul, non loin du chemin de fer qui relie Bruxelles à Paris. La grisaille éclatante ici et là se dissipe, et un faisceau de lumière pourrait presque se refléter sur les rails. Le policier, chef de la brigade équestre de Mons, patrouille seul. Oh, il aime vivre ces moments qui semblent suspendus, hissé sur sa fidèle monture qui connaît la zone presque mieux que son maître. Le fier destrier toise d'un regard furtif les alentours. D'un instinct hérité de ses ancêtres, il est le guide dans les ombres. Il va pourtant se faire surprendre. Au détour d'un chemin, non loin d'un des ponts de Couëm, cavalier monture se crispe. Il ressent une présence soudaine, oppressante. Il y a quelque chose ou quelqu'un là qui les regarde. Inquiet, Olivier Motte se redresse. Mais il n'aperçoit que la brume, rien d'autre. Pourtant, l'ombre insidieuse se glisse déjà autour de lui. Elle ne va pas tarder à le saisir. Nous sommes le 22 mars 1997. Il est un peu plus de 7h45 du matin. Et c'est l'heure H de mon histoire. Attention, cet épisode n'est peut-être pas adapté aux oreilles les plus sensibles. Figé sur le Ravel, en haut d'un talus, Olivier Motte s'emploie à passer inaperçu. Il n'y a que la respiration haletante de son cheval pour rendre sa présence discernable. L'animal se déploie de tout son long. Son encolure se redresse, ses oreilles se crispent. Il est à l'écoute de ce bruit lancinant qui semble les narguer. L'acoustique de la zone est telle que le son, sourd, répétitif, pourrait venir de partout. Rester inerte n'est pas une option. Le policier se décide à descendre de cheval. On ne sait jamais. Délicatement, il fait passer ses rênes par-dessus la tête de sa monture. Lorsque ses doigts viennent effleurer les naseaux de l'animal, ce dernier se meut brusquement. Olivier peut lire la peur dans les grands yeux écartés de son ami. D'un geste, le policier le rassure. D'un mot, il l'apaise. Malgré les coups répétés, l'homme se persuade que le son qui arrache Couëm de sa torpeur matinale provient du contrebas du talus, non loin des rails de chemin de fer. Les premières habitations encore endormies ne semblent pas dérangées par le tintamarre qui se joue à leurs pieds. Et pourtant, plus il s'approche, plus le policier se rend compte que sa première impression est la bonne. Il y a quelque chose, là, en bas du talus. Une forme qui ne semble pas humaine et qui provoque un boucan du tonnerre. Il est rationnel, le cavalier. Assez pour ne plus croire aux histoires de monstres et de fantômes. Mais là, il est terrifié. Une peur bleue le saisit, le submerge. Un pas après l'autre, il se rapproche de ce qui semble le regarder avec insistance. Un animal ? Certainement. Motte veut en avoir le cœur net et, prenant son courage à deux mains, s'approche cette fois nettement de sa source d'inquiétude. Il ne va pas être déçu. Bien aidé par un éclat de soleil perçant la brume, le policier distingue enfin ce qui lui a glacé le sang. dans un soupir. L'homme ne peut s'empêcher de rire de lui-même. Ce qui l'effraie depuis de longues minutes n'est qu'un gros chat qui, peu farouche, continue de jouer au milieu d'un tas de sacs poubelles. Pas de quoi en faire un drame, allez-vous me dire. Oui, vous avez raison, mais le truc, c'est qu'Olivier Motte n'est pas au bout de ses surprises. Des peaux sauvages d'immondices, voilà pourquoi sa patrouille est salutaire ce matin. C'est monnaie courante ici, au bord de la Haine, une rivière qui semble attirer les mauvais esprits. Les déchets et d'autres joyeusetés de ce genre y sont légion. Le représentant des forces de l'ordre s'approche un peu plus des sacs poubelles. Mais à quelques mètres, il est arrêté par l'odeur putride et immonde qui s'en dégage. Une véritable infection. Instinctivement, l'homme colle sa main sous son nez. Le chat ne semble pas importuné par l'horreur olfactive de l'amas. Il continue de jouer avec ce qui semble être un objet en plastique. Ah, si seulement. Plus il s'approche des sacs, et plus Olivier Motte distingue l'impensable. L'animal est en train de s'acharner sur une main. Blanche, cadavérique. Elle n'a rien de fictive. Elle est humaine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a de quoi retourner les estomacs les mieux accrochés. Ni une ni deux, saisi d'effroi, le policier entre en communication avec son poste de police. Sa voix est cassée par la terreur et l'effroi. Champ patrouille rue Van der Velde. Faut absolument contacter le parquet. Je viens de trouver des sacs poubelles sur le talus en contrebas de la rue. 5 d'entre eux sont des sacs communaux de la commune de Knock. Et il y a des restes humains. Toute la police de Mons est alors mise en alerte. La machine judiciaire aussi. Très peu de temps après la macabre découverte, le juge d'instruction, Pierre Pilette, est envoyé sur les lieux. Le magistrat pressé n'a pas eu le temps de bien enfiler son costume. Tiré de sa quiétude matinale, il n'est pas d'une excellente humeur. Cela n'est pas près de changer. Ici, sur un talus de Couem, commence une sordide affaire qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Dès le matin du drame, toute la ville de Mons est mise en état d'alerte. Les premières constatations laissent à penser que les sacs découverts à Couem peuvent contenir les restes d'une seule et même victime. Mais il n'en est rien. Et pour cause, on retrouve 3 pieds. En plus du magistrat Pierre Pilette, l'expérimenté procureur du roi Pierre Honoré participe à la prise en charge de l'affaire. Avec son substitut, ils font état des premières constatations.
Au stade actuel de l'enquête, nous n'avons toujours pas pu identifier ces débris humains, ni les corps auxquels ils se rattachent, bien sûr.
Il faut que les enquêteurs puissent mettre la main sur le reste des dépouilles. En attendant, ils sont confiés au service approprié, en vue de pratiquer un semblant d'autopsie. Le procureur du roi, Pierre Honoré, détaille la suite des événements.
Étant donné que le magistrat instructeur a prescrit des devoirs d'examen histologique, anatomique, etc., qu'il a prescrit ses devoirs à une université, puisque cela doit se faire de manière tout à fait scientifique, et que dès lors, les résultats seront longs à avoir. Les recherches se tournent sur toute la Belgique, tout azimut. On ne reste pas uniquement dans l'arrondissement judiciaire de Mons, évidemment.
D'emblée, le talus de Couem concentre bien des questionnements et des mystères. Les enquêteurs n'ont pas la tâche facile, tant l'endroit est recouvert par des amas de détritus et de déchets en tout genre. Les pistes à suivre sont maigres et ne permettent pas de réaliser des avancées décisives. Oh, il y a bien ce mince espoir de remonter le fil jusqu'au tueur. Sur les 9 sacs découverts, 5 viennent de la commune de Knock. De quoi faire le lien entre le tueur et la côte belge? Eh bien, en fait, pas vraiment. En étudiant les numéros des contenants, les policiers se rendent compte qu'il s'agit d'un lot défectueux, revendu dans un magasin montois. Retour à la case départ, donc, pour les enquêteurs. On termine ainsi la fouille de la zone dans la plus grande frustration. Hormis les sacs, aucun indice notable n'est venu aider les policiers et les magistrats. Ils n'ont alors qu'un petit espoir que l'autopsie des restes, même partielle, donne quelque chose. Les enquêteurs vont pourtant être rattrapés par l'horreur. Le mystérieux criminel n'en a pas fini avec eux. Le 24 mars 1997. La ville est quadrillée depuis 48 heures. Le Borinage est en état d'alerte. Ses policiers sont sur les routes. L'éveil du printemps est bien maussade. Et cela n'est pas près de changer. Au petit matin, un dixième sac est découvert, en plein milieu du chemin de l'inquiétude, au cœur de Mons. Dans cette zone de la ville, située entre la gare et la cité administrative, le passage est constant. Le dépôt du sac date certainement de la veille, puisque la végétation au-dessous est totalement intacte. Cela ne peut vouloir dire qu'une chose. Celui qui est à l'origine de tout ça nargue les forces de l'ordre. Et pas qu'un peu. Aucun doute possible. Ce sac a été déposé très récemment. Il contient un buste féminin. Les légistes ne tardent pas à faire le lien avec les premières découvertes. Même type de sac, même manière de découper les restes humains. En bref, c'est le même tueur qui est à l'œuvre. Cette provocation permet aux enquêteurs d'esquisser des premières certitudes sur la personnalité du criminel. Le monstre n'a pas froid aux yeux. Et pire, il cherche à mettre en colère les policiers et les magistrats. Ce qu'il veut démontrer est très clair. Il se croit supérieur. Les habitants du quartier sont sous le choc. La couverture médiatique de l'affaire provoque un véritable sentiment de psychose partout en Belgique. Le dernier sac mis au jour indique que la police fait certainement face à un implacable serial killer. Le Borinage bascule dans la terreur. Chaque dépôt sauvage, chaque sac poubelle, un peu suspect, fait l'objet de dizaines d'appels d'habitants apeurés aux services de police communaux. Mons devient bientôt une ville fantôme, au sein de laquelle plus rien ne se passe une fois que le soleil est couché. Les magistrats Pilette et Honoré, eux, se rendent bien compte de l'ampleur de la tâche. Et c'est bien simple. Jamais la police montoise n'a eu à traiter ce type d'enquête. Un tueur en série, au pays de Salvatore Adamo. C'est du jamais vu. Il faut rapidement renforcer les forces vives pour avancer. La cellule d'enquête spéciale Corpus est créée dans cette optique. Suffisant ? Peu probable. Il faut dire que ces découvertes macabres tombent au plus mauvais moment pour le système policier belge. Depuis des mois, une crise couve dans tout le pays. Pourquoi ? Le royaume vit au rythme de l'enquête sur les agissements de Marc Dutroux. De nombreuses ressources sont mobilisées sur ce dossier. Et face au séisme provoqué par le tueur de Marcinelle, police et gendarmerie s'écharpent. Elles n'en ressortent pas indemnes. Des tensions énormes se font ressentir dans toutes les strates de la société. Une défiance réelle de la population s'est installée contre les représentants de l'autorité. On réclame des comptes à la justice et aux forces de l'ordre. Pas de quoi faciliter un travail d'enquête déjà rendu on ne peut plus difficile par l'identification délicate des parties de corps retrouvées. Interviewé à propos des moyens dont disposent les enquêteurs, le ministre de la Justice, Stéphane de Clercq, temporise.
Je comprends très bien qu'il y a une anxiété, beaucoup d'angoisse dans la région. Et donc, dès le début, nous étions à la disposition de la magistrature pour ajouter des moyens si nécessaire. Je crois que pour le moment, ils ont tous les moyens nécessaires, mais il est évident que s'il y a des demandes supplémentaires, que je suis à leur disposition. Je crois qu'ils font un travail remarquable, qu'ils sont bien organisés pour le moment. J'espère qu'ils vont aboutir.
On sait que vous avez des demandes en tous sens, donc est-ce que vous pouvez encore faire face à d'autres demandes maintenant?
Ouais, ça vient d'un peu partout maintenant, et je suis en train de réorganiser les services qui sont à la disposition des parquets et des juges d'instruction pour des enquêtes différentes partout un peu dans le pays. Et donc, ce sont un peu les médias qui renforcent bien sûr des enquêtes, mais je crois que c'est tout à fait normal. Et l'esprit nouveau, les normes nouvelles qui sont indiquées maintenant dans le rapport du TOU nous montrent que nous devons agir avec tous les moyens possibles, dans toute enquête possible.
Malgré des patrouilles et des fouilles constantes, aucun élément décisif n'est mis au jour afin de remonter le fil jusqu'au tueur. Après la découverte du buste dans les rues de Mons, les choses vont se calmer. Pour un temps. Si l'enquête patine, le criminel, lui, court toujours. Et il va bientôt se charger de le rappeler aux forces de police lancées à sa poursuite.
Bonsoir à tous. Trois nouveaux sacs poubelles contenant des restes humains ont donc été découverts aujourd'hui à Avray, près de Mons. C'est une habitante du quartier qui a trouvé les sacs à côté des anciens terrils.
12 avril 1997. Voilà trois semaines que le tueur n'a pas donné signe de vie. Le long de la rivière, la Haine, tout un symbole. La police exhume un pied, un mollet et surtout une tête. Pour la toute première fois, une des victimes du criminel pourrait bien être identifiée. Au-delà de ça, le dépeceur de Mons, surnom qui émerge dans la presse, n'a pas laissé de traces. Pour les enquêteurs, impossible de mettre la main sur le moindre indice. Hélicoptère, fouille des égouts, quadrillage minutieux, tout est pourtant fait pour retrouver le moindre petit élément. En vain. L'incertitude planante provoque bien des interrogations. Chaque fois, les sacs sont retrouvés en des lieux aux noms caractéristiques. Rue du dépôt, rue de l'inquiétude, près de la rivière La Haine. Et si tout cela était voulu, provoqué par le tueur? Après tout, ça se tient, non? Les enquêteurs ne jettent pas cette idée à la poubelle. Le criminel, en déposant un sac en plein centre-ville de Mons, quelques jours après la première découverte, a bien marqué sa volonté de jouer avec eux. Cela le rend d'autant plus redoutable. La médecine légale se penche sur le contenu de ces nouveaux contenants. La tête, évidemment, va permettre d'ouvrir de nouvelles perspectives au sujet de l'identification d'une première victime. Un portrait robot de celle-ci est réalisé et diffusé dans la presse nationale. On ne met pas longtemps à retrouver l'identité de la malheureuse. Il s'agit d'une jeune femme de 22 ans à peine. Dans un premier temps, le parquet ne préfère pas divulguer son nom publiquement.
À la demande de monsieur le juge d'instruction et de la famille, et aussi par respect pour leur deuil, je ne donnerai aucun renseignement quant au nom et à la personnalité de la défunte. Si d'autres personnes ne sont pas en danger, nous pourrons peut-être éventuellement le dire.
C'est la raison pour laquelle vous ne voulez pas donner son identité? Il y a des personnes en danger?
Voilà, il y a d'autres personnes en danger. Je vous l'ai dit aussi, il y a une volonté des familles de ne pas dévoiler ce nom pour l'instant.
La victime, on l'apprendra plus tard, s'appelle Nathalie Godard. Sa mère indique aux enquêteurs qu'elle a disparu à la mi-mars. Ainsi, elle est morte il y a peu de temps. Nathalie a connu un parcours de vie chaotique. Elle, qui a perdu la garde de sa petite fille, âgée d'un peu plus d'un an. Mal insérée dans la société, elle est vulnérable. Sa mère rapporte qu'elle n'avait pas de logement fixe. Pire, elle devait se battre contre de multiples addictions. Quelques heures après la marche blanche organisée pour Julie et Mélissa, les victimes de Dutroux, Nathalie a disparu sans laisser de traces. Son identification est en premier pas, certes. Mais de multiples questionnements restent sans réponse. Quelle est la cause de la mort? A-t-elle été sexuellement agressée? Les restes retrouvés dans les sacs ne peuvent malheureusement pas permettre d'avancer sur ces points déterminants. Une chose est certaine. Nathalie n'est pas la première victime du dépeceur de Mons. Certains membres mis au jour dans les 9 premiers sacs indiquent une mort qui remonte à un peu plus d'un an. Il faut donc continuer de chercher. le premier objectif des enquêteurs. Relier les membres restants à des personnes disparues, afin de connaître leur identité. Une aiguille dans une botte de foin serait plus facile à trouver. Pourtant, ils ne désespèrent pas. De nombreuses semaines de boulot intensive permettent enfin de conclure. La police parvient à relier des disparus aux restes humains découverts dans le borinage. Jacqueline Leclerc, 33 ans, semble être la deuxième victime du tueur. Sa disparition, très peu de temps avant Noël 1996, correspond à l'état d'avancement de décomposition submentionné. Diagnostiquée comme dépressive, addict à l'alcool, elle venait de perdre la garde de ses enfants. La jeune femme est identifiée grâce à un tatouage qu'elle portait sur l'un de ses bras et que le criminel a cherché à faire disparaître. Pour la plus ancienne victime du dépeceur, il va falloir plus de temps aux forces d'enquête pour la retrouver. Finalement, il remonte jusqu'à une dénommée Jacqueline Beaune, âgée de 43 ans et disparue depuis l'été 1996. Là encore, une vie chaotique caractérise son parcours. Entre accidents, violences domestiques et addictions. Son buste a été repêché dans la Haine, permettant son identification. Mais c'est pas tout. Les avancées permettent de relier le criminel à d'autres dossiers non élucidés, parfois au bout d'un an de procédure. Au tout début de l'année 1996, les restes d'une femme de 42 ans, Carmelina Russo, sont découverts dans l'Escaut, en France. Ses habitudes permettent de relier sa mort au dépeceur de Mons. Dans le cadre de ses activités professionnelles, la quadragénaire se rendait fréquemment dans le quartier de la gare Montoise, là où les autres disparus pouvaient elle aussi passer du temps. Est-elle alors la première victime du monstre? Peut-être bien, enfin du moins, les enquêteurs le croient. Voilà enfin des avancées majeures. Pourtant, à ce stade de notre histoire, les pistes à explorer restent maigres. Sans indices, sans scène de crime, sans témoin. Impossible pour la police de repérer un éventuel suspect. Le tueur en série va-t-il pouvoir être retrouvé? Cela semble être mission impossible. À moins que ces premières lueurs d'espoir ne permettent enfin de débloquer une partie de la situation. Mons, plusieurs mois après la découverte des victimes du dépeceur. Les enquêteurs de la cellule Corpus, accompagnés du magistrat Pilette, sont devant la porte du domicile de Jacqueline Leclerc, victime du tueur. Georgette, la sœur de la jeune femme, est avec eux. Les forces d'enquête sont prêtes à mener une perquisition chez la disparue. Afin, pourquoi pas, de mettre le doigt sur quelque chose. Depuis l'identification des corps, ce sont des dizaines de pistes qui ont été lancées à l'eau, avec l'espoir d'hameçonner un élément déterminant. En vain, jusqu'à maintenant. Tremblante, Georgette Leclerc déverrouille la serrure de la porte d'entrée. En un instant, la voilà replongée au milieu des souvenirs partagés avec sa sœur. Elle ne peut retenir ses larmes. Les policiers et le magistrat, eux, prennent possession des lieux respectueusement. De son côté, Georgette traverse l'endroit comme une ombre, dévorée par la douleur que lui imposent les affaires de sa sœur disparue. Et puis, comme un éclair s'impose dans une nuit d'été, un détail vient frapper sa conscience altérée par la souffrance. Sur une petite table, au milieu de l'appartement, un paquet de cigarettes se trouve à côté d'un cendrier rempli. Un objet qui en un instant vient la percuter et provoque chez elle un sentiment indescriptible. Sa sœur était fumeuse, oui, mais jamais elle n'achetait cette marque. Pire, impossible qu'elle laisse traîner comme ça un cendrier plein. Pour elle, pas de doute. Le tueur s'est assis là pour griller un paquet. Bon, de là à en faire une preuve, il y a un monde, on est d'accord. La fouille du domicile ne donne rien. Georgette parle bien d'un homme raffiné que sa sœur fréquentait depuis quelque temps. D'après elle, Jacqueline le croisait régulièrement, à plusieurs étapes clés de ses journées, sans pour autant entamer une relation amoureuse avec lui. Ah, c'est maigre. D'autant qu'il n'existe aucun moyen de connaître l'identité de ce gars mystère. C'est le flou, encore. L'impasse des enquêteurs est réelle. Lorsqu'on découvre les derniers restes en avril, l'identification de Nathalie Godard permet l'interpellation de son ex, Léopold Bogart. L'homme aurait été violent avec elle. « Eh bien, le voilà, le dépeceur !» se disent les policiers. Mais il n'en est rien. Au bout de 15 jours, Bogart est libéré, disculpé par des analyses. Plus d'un an de recherches sont nécessaires pour identifier les quatre victimes du tueur. Cette période, aussi longue que frustrante, ne permet pas d'apporter de réponse sur le profil du monstre. Les équipes sont démunies. Quant aux familles de victimes, leur deuil s'annonce difficile, comme l'exprime Georgette Leclerc le jour de l'enterrement de sa sœur Jacqueline.
Savoir qu'on a retrouvé seulement les jambes et les bras de ma sœur découpés en plusieurs morceaux, savoir qu'on n'a pas retrouvé sa tête, son corps, c'est terrible pour une maman. C'est, même pour nous, notre sœur, c'est trop dur à supporter.
On est là quand même pour montrer qu'on a une force entre nous et pour lui rendre hommage.
Nous ne sommes pas des chiens, nous sommes des femmes, des hommes. Et nous méritons mieux que ça, je crois. Donc, nous ne sommes pas de la viande à couper ou quoi que ce soit.
J'ai été institutrice, je suis à la retraite maintenant, mais bon.
Et vous avez eu Jacqueline comme élève?
Oui, tout à fait.
Et c'était une fille comment?
Très douce, très gentille, enfin, une enfant sans problème, aucun.
Heureusement, les Couémois expriment leur plus grande solidarité. La cellule Corpus concentre ses forces sur le profil des victimes. Elle en ressort des constatations claires. En premier lieu, les disparus ne se ressemblent pas. Elles n'ont pas le même âge non plus. En épluchant leur vie, les enquêteurs se rendent vite compte que les quatre femmes ne se connaissaient pas. Difficile donc de les relier les unes avec les autres. En revanche, quelques points communs sautent aux yeux. Pour trois d'entre elles, la vie était loin d'être un long fleuve tranquille. L'autre similitude provient de leur zone d'activité. Les quatre femmes, que ce soit pour des raisons personnelles ou professionnelles, passaient une partie de leur journée dans le quartier de la gare de Mons. Un faisceau clair se dégage. Le tueur opère certainement dans ce pôle. Au-delà de l'étude des profils, certains éléments permettent de dessiner un peu la personnalité du dépeceur et sa manière de tuer ses victimes. Aucune des parties de corps retrouvées ne porte des traces de coups. Il est probable que les femmes aient été tuées par strangulation. Chaque fois, les mutilations ont été effectuées post-mortem, hormis pour le cas de Carmelina Rousseau. Certainement sa première victime. Les découpes sont nettes, précises. L'homme serait-il boucher ou médecin? En tout cas, c'est une piste. Mais disons-le clairement, sans plus de moyens, impossible pour les enquêteurs d'aller plus loin. Le parquet lance les demandes nécessaires afin d'obtenir des renforts. Le dossier est considéré comme une affaire locale. Les policiers en charge de l'enquête n'obtiennent rien, ou si peu. Pourtant, les choses vont s'accélérer de nouveau. Et la Belgique va encore trembler sous le poids de la terreur. « 18 octobre 1997. Enseveli le long de la Trouille, un cours d'eau autour de Mons, un crâne, est découvert de manière fortuite. Une expertise menée après bien des atermoiements permet d'identifier que les restes appartiennent à une femme, tuée sans aucun doute par le dépeceur. Bégonia Valencia, c'est le nom de la cinquième victime. » Elle a 38 ans. Elle est mariée et mère de famille. Elle disparaît alors que son époux est interné en institut psychiatrique et que son état à elle ne cesse de se dégrader. Comme pour les autres. Le tueur s'en est donc pris à quelqu'un de fragile, d'instable, de reclus. Là encore, ce sont les marques de découpe qui permettent de relier l'affaire à celle déjà en cours. Pour la cellule Corpus, cette découverte est assurément une très mauvaise nouvelle. Les enquêteurs, comme la presse et l'opinion, pensaient que le tueur s'était rangé. Visiblement, il n'en est rien, puisque Bégonia a disparu au cours de l'été 1997. Une peur panique s'installe alors de nouveau, en particulier chez les Montois. Il faut trouver un moyen, et vite, de faire rebondir une affaire qui ne cesse de s'enliser. C'est dans ce cadre que l'émission française Appel à témoins est mise sur le coup en novembre 1997. Réputé des deux côtés du Quiévrain, le show permet depuis des années de faire avancer des dossiers délicats et complexes, comme celui du dépeceur. L'émission est axée sur le mode de vie des quatre victimes.
Le juge essaye d'obtenir maintenant tous les renseignements utiles sur les derniers moments de vie de ces victimes. Et ça, évidemment, c'est l'appel à témoins qui est fait. Nous demandons donc, et le juge demande, que tous les renseignements qui pourraient être donnés par quiconque soient donnés à cette émission.
Après la diffusion de l'émission, des centaines de témoignages, tantôt fantaisistes, tantôt étrangers au cas du criminel, vont affluer. Hélas, cela ne va pas apporter le moindre résultat. Cet échec n'est qu'un exemple parmi d'autres. Avec très peu de moyens, les enquêteurs se démènent pour trouver des solutions. Il ne semble pas y avoir d'issue. Chaque fois, c'est une déception supplémentaire pour les familles des victimes et les forces de l'ordre. Les semaines passent. Pour les magistrats et les membres de la cellule Corpus, l'angoisse subsiste. L'attente. Le dépeceur va-t-il tuer de nouveau ? L'année 1998 commence donc dans la peur de voir réapparaître l'un ou l'autre sac déposé par le dépeceur de Mons. Aussi fou que cela puisse paraître, après la découverte de Bégonia Valencia, la cinquième victime, le criminel le plus recherché du Borinage s'arrête de tuer. Enfin du moins ne découvre plus rien. D'un certain point de vue, c'est évidemment une bonne nouvelle. De l'autre, le tueur s'est volatilisé. La cellule d'enquête redouble d'efforts, tente de faire un lien entre les victimes, chaque fois des femmes, qui fréquentent le quartier de la gare de Mons et qui vivent des situations compliquées. On tente alors de cerner les endroits qui auraient pu permettre aux criminels de rencontrer ses futures proies. Plusieurs pistes se dégagent, notamment celle de l'hôpital psychiatrique de Mons, où quatre des victimes ont séjourné. De là à imaginer que le dépeceur soit un des membres du personnel ou un patient, il n'y a qu'un pas que les policiers magistrats ne parviennent pas à franchir, car aucun lien n'est établi. Du côté de la gare, les disparus ont eu l'occasion de passer par l'hôtel Métropole, un établissement ouvert 24 heures sur 24. Le lieu est mis sous scellé. La patronne est suspectée, tout comme son fils. C'est aussi le cas d'un ancien employé ayant déménagé en France après les dernières découvertes. Mais là encore, les résultats sont maigres. Le fait que l'auteur des crimes ne frappe plus depuis un petit moment laisse à penser qu'il est mort ou qu'il a quitté la région. L'ancien employé de l'hôtel n'est donc pas une si mauvaise piste que ça. Il y en a une autre qui pourrait permettre d'expliquer l'arrêt des tueries. C'est celle du Shape, une base de l'OTAN située en périphérie de Mons, qui voit aller et venir des milliers de militaires tous les ans. Le dépeceur pourrait-il être un des soldats en station à l'OTAN ? Et pourquoi pas, Mais l'institution ne coopère pas. Chaque fois, le résultat est le même. À la lueur de l'espoir succède la torpeur de l'échec. Les forces de police n'ont bientôt plus de cartouches dans leurs manches. Il ne leur reste à vrai dire qu'un seul filon. Georgette Leclerc, la sœur d'une des victimes, a donné le signalement d'un homme qui aurait régulièrement croisé Jacqueline avant sa mort. Pour autant, jamais la police n'a eu l'occasion de retrouver l'individu. Elle va donc se mettre à sa poursuite. En remontant le fil de cette piste, les enquêteurs sont ramenés vers l'hôtel Métropole. L'homme qu'ils cherchent n'y est pas inconnu. Au contraire, le gaillard est un médium qui donne des consultations. Mieux, il est l'ancien employé ayant déménagé en France à la fin des tueries. Voilà enfin un point commun qui pourrait relier les victimes à un même suspect potentiel. Quant à la gérante du Métropole, elle n'hésite pas à qualifier son ex-employé de bizarre. Son domicile est perquisitionné. Une enquête sérieuse est menée autour de lui, sans que cela apporte des résultats probants. En tout et pour tout, près de 1700 dénonciations ont été faites aux enquêteurs entre les meurtres et le début des années 2010, sans rien changer. L'affaire du dépeceur de Mons est un cold case qui continue de nous coller des frissons. En tout, ce sont 15 sacs contenant 38 membres de 5 victimes différentes qui ont été mis au jour, le tout, en un peu moins d'un an. Chaque fois ou presque, les restes sont retrouvés dans des rues ou des lieux non évocateurs. Chemin de l'inquiétude, rivière la haine. Comme si au fond, le dépeceur était de ces monstres qui aiment narguer les enquêteurs. Les zones d'ombre sont nombreuses. Des parties du corps et les effets personnels des victimes ne sont jamais retrouvés. De deux choses l'une. L'homme qu'il cherche est un collectionneur, ce qui est possible. Ou le tueur dispose d'endroits divers de dépôt. Cela permet de ralentir au maximum le processus d'identification des victimes. Et puis il y a une autre hypothèse qui est défendue par une partie des enquêteurs. Celle que la haine, rivière centrale autour des zones fréquentées par le tueur, fut le réceptacle des affaires et des parties du corps volumineuses des malheureuses. Comme le reste, cette question reste en suspens. L'échec de l'enquête, tout comme le manque de moyens accordés à la cellule corpus, est certainement le signe d'un manque de considération. Pour qui ? Pour les victimes, dont le parcours marginal et difficile peut provoquer une invisibilisation. Quoi qu'il en soit, impossible de dire que les policiers et magistrats en charge de l'enquête n'ont pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour la mener à bien. Au fil des ans, ils ont étudié près de 700 pistes différentes, ce qui témoigne d'un engagement sincère et durable à bien des égards. Hélas, ce ne fut pas suffisant pour mettre la main sur le serial killer. Année après année, la cellule corpus se voit rabotée de moyens et de personnel. En 2007, ils ne sont plus que 4 à bosser en son sein. Comment résoudre une affaire aussi compliquée que celle du dépeceur avec si peu d'effectifs à disposition? Cela semble être une chimère. Guylaine Bonaventure, la journaliste judiciaire à Mons qui a couvert en partie l'affaire, ne mâche pas ses mots.
Je suis personnellement convaincue que si les victimes avaient été des femmes de notables, on aurait obtenu certainement des effectifs supplémentaires. Seulement, les victimes étaient des filles un peu à la dérive, psychologiquement instables, dépaumées, dont personne ne se souciait.
Quant à Georgette, la sœur de Jacqueline Leclerc, elle ne cache pas son désarroi.
Je veux que ça continue, je veux qu'on continue à chercher, je veux qu'on trouve et je veux qu'on fasse le maximum possible. Les policiers ont dû certainement passer tout près, mais on ne connaît pas son profil, on ne connaît pas son visage, on ne connaît rien, on n'a rien de lui.
Aujourd'hui, l'affaire est au point mort. Hélas, la prescription approche. À l'horizon 2027, la justice tirera un trait définitif sur l'un des plus mystérieux cold cases de notre pays. Avec ce dossier, on dépasse le simple cadre criminel. L'affaire est aussi le miroir d'une époque où l'horreur règne au cœur de la société. Dans le cas présent, la terreur s'agrège au mystère. Le coupable, s'il vit encore, est toujours dans la nature. C'est peut-être cela qui dérange le plus. Au cœur de l'incertitude, plus encore que son identité, c'est l'arrêt des meurtres et l'invisibilité du monstre qui interpelle. Il ne reste plus qu'à espérer un rebondissement d'ici les prochaines années. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume d'Antoine Charpagne et à la collaboration des équipes de LDV Productions.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.